à gagner. Une bourse de 500 $, une campagne publicitaire d'une valeur de 1000 $ sur les ondes de CKRL et un spectacle avec cachet dans le cadre des Jeudis chauds au Sacrilège. Inscriptions et détails sur ckrl.qc.ca. Date limite, 25 janvier.
Ce concours est rendu possible grâce à CKRL, le bar Le Sacrilège et Boréal.
Le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Enfin, de retour en studio, et je suis pas seul, c'est Jean Cloutier qui est avec vous, c'est bien l'émission Le Grain de Sable. Je suis avec Étienne Blondeau,
bonjour, bon
chroniqueur, samedi, qui va nous parler d'Afrique. On aura aussi une capsule de Jacques Bégelina en deuxième demi-heure. Ici, le tiers-monde. Mm. Ben oui, donc, c'est tellement plaisant d'être assis sur une chaise devant un micro où on sait qu'il est en pratique, en théorie, n'aura pas trop de problèmes de son. Et on s'excuse pour les trois dernières émissions où la première, j'étais à partir d'une chambre d'hôtel. La deuxième, dans un lieu vraiment qu'on rêvait depuis longtemps. On avait déjà eu d'ailleurs un reportage sur le village global des alternatives, dit Alternatiba. Donc j'étais dans une salle de bénévoles, dans un lieu de détente, mais où on servait à souper à tous les bénévoles, puis il y en avait des centaines qui étaient là, qui ont assisté à cette deuxième émission. Et la troisième, enfin, on était quand même dans un lieu très, très, très prisé aussi, puisqu'on venait de célébrer cette manifestation, en fait, ces trois manifestations de samedi 12 décembre. On était dans les locaux d'Attaque France, dans un beau petit quartier où il y a plusieurs lieux de réunion, où il s'est passé beaucoup de choses dans le off COP 21, qu'on peut dire. Beaucoup de groupes, dont Attaque France, les Amis de la Terre International, plusieurs centaines d'organismes qui travaillent un peu, comme vous le connaissez, avec les mouvements alternatifs, écologistes et aussi économiques, qu'on dirait, parce que, comme vous le savez, Attaque France, depuis plus de 12 ans, en tout cas, nous, on fait l'émission ici pour vous parler d'une taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin ou la taxe Robin des Bois, que j'ai vu réapparaître dans le langage au cours de COP21. Donc, effectivement, ça fait partie des solutions qu'on va vous parler. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être bien ou pas le site Attaque Québec. Ben, je vous le recommande, puisque sur le site québec.attaque.org, vous pouvez trouver le dernier bulletin qui est tout chaud. Il est sorti pendant qu'on était en France. Donc, on parle évidemment de cette conférence des partis des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a un spécial, Le temps de changer, qui est le bulletin numéro 51 de décembre. Et nous avons aujourd'hui avec nous deux auteurs de texte de ce bulletin. Nous avons, entre autres, ce qu'on pourrait dire l'éditorialiste de ce numéro, Baptiste Gaudry. Vous me le dites si je prononce bien votre nom. C'est Gaudry ou Gaudry?
Gaudry.
Gaudry. Alors, merci d'être avec nous. Baptiste, merci. La machine à réchauffer la planète, vous êtes vraiment au bon endroit pour en parler, parce qu'effectivement, on a beau parler de tout l'importance de cette conférence, de la COP21, qu'on connaît vraiment comme ça maintenant. Mais moi, ce que j'ai réalisé vraiment sur place, surtout quand on est dans les bureaux d'Attaque Québec et qu'on fréquente d'Attaque France, pardon, et qu'on fréquente les Amis de la Terre France de tous les 77 pays, et ces 2000 militants qui étaient venus à Paris passer le dernier week-end à faire plusieurs manifestations, on se fait vite sensibiliser que dans le fond, c'est pas le climat qu'il faut changer, mais le système. Mm-hmm. Et vous, dans votre texte, vous nous parlez effectivement de ces stratégies qui ont été développées dans le passé et qui l'ont été encore plus en présence physique des gens entre eux. J'ai même assisté dans les locaux d'Attaque France à ce qu'on appelait la French Coalition, qui réunissait une centaine d'organismes américains, européens, asiatiques, africains, et qui tournait alentour de cette coalition qu'on veut faire pour l'action Climat 21. Mais quelles sont leurs stratégies, que vous parlez d'ailleurs dans votre texte?
En fait, je pense que, comme vous l'avez bien expliqué, effectivement, la stratégie des organisations de la société civile, c'était de profiter de l'attention médiatique qui entourait la conférence, la COP21 à Paris, pour promouvoir les actions concrètes en faveur d'une transition écologique. Ce qui s'est passé, c'est que par le passé, ces associations de la société civile essayaient d'investir le lieu des négociations, essayaient de faire peser de tout leur poids sur les négociations. Mais on s'est aperçu avec le temps que de toute façon, ces négociations souvent étaient réglées d'avance et c'était difficile d'avoir réellement un impact. On sortait déçus de la mobilisation. Alors là, c'est une toute autre stratégie, c'est de dire on va faire un contre-forum, on va faire un contre-rassemblement et on va se réunir entre nous et on va profiter de la tenue de cet événement avec les médias du monde entier qui nous regardent pour amener vraiment des enjeux qui nous correspondent et des solutions qui nous correspondent, qui sont à notre image. Alors, on en a assez de parler pour parler de réduction de gaz à effet de serre, mais là, on va vraiment mettre sur la table qu'effectivement, c'est le système en entier qui produit, qui a une action extrêmement défavorable sur le climat et puis sur toute l'humanité, dans le fond.
Et c'est un système qui est encouragé par les ententes de libre-échange, mais pourquoi vraiment lier ces luttes contre le libre-échange et les changements climatiques?
Alors, je pense qu'on voit souvent ces luttes-là comme des luttes distinctes. Souvent, on fait pas spontanément, effectivement, d'association entre libre-échange et puis lutte climatique. Et ça a été tout l'enjeu de la mobilisation de cette société civile internationale. Vous rappeliez qu'il y avait des organisations américaines, de partout en Europe. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vit dans un système capitaliste qui carbure aux énergies fossiles. Et aux accords de libre-échange. Alors là, je peux vous faire une liste d'acronymes, ça dit pas nécessairement grand-chose pour les auditeurs, mais bon, il y a le TAFTA, il y a le partenariat transpacifique qui est en ce moment négocié avec le Canada puis d'autres 11 pays dans le monde. Et ces accords, ce qu'ils font principalement, c'est qu'ils ouvrent le marché des énergies fossiles, ils facilitent leur extraction par des compagnies internationales, ils facilitent leur exportation, donc souvent les gouvernements vont aussi créer un certain nombre d'infrastructures pour favoriser la circulation de ces énergies fossiles et leur exportation. Et ce qu'on fait, c'est qu'en rendant disponibles ces énergies fossiles en plus grande quantité, souvent à meilleur marché, parce que soit on subventionne, soit on fait des exemptions fiscales pour ces compagnies, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on accentue directement la pression sur l'environnement. Alors il faut vraiment avoir en tête que la signature, il y a un effet presque mécanique, quasiment direct, que la signature de ces grands accords économiques, ces grands traités de libre-échange, vont accentuer l'extractivisme et vont accentuer la pression sur l'environnement.
Donc,
alors c'est pourquoi, juste, je me permets de compléter à l'instant, c'est pourquoi Maxime Combes, qui est membre du Conseil scientifique d'Attaque France, qu'on avait invité à notre Assemblée générale annuelle à Attaque Québec, décrit ce système capitaliste comme une véritable machine à réchauffer la planète.
Oui, d'ailleurs, moi je le suis sur Twitter, je recommande à tous les gens qui s'intéressent là, à vivre les conséquences de cet accord universel qui a été décrit effectivement par Maxime Combes. Mais évidemment, j'ai eu la chance de le rencontrer, il a failli être à notre émission la fin de semaine du Village Global des Alternatives, mais il devait se rendre au lancement de son propre livre, Sortons de l'âge des fossiles, aux éditions du Seuil. Je sais pas si tu l'as vu circuler sur Internet. Il est probablement pas encore rendu ici, mais je le recommande vraiment. C'est possible de le commander d'ailleurs sur le site d'Attaque France. Et son motus est le « Désarmons les marchés pour résoudre la crise du climat ».
Exactement. Moi, je vais vraiment dans le même sens que les documents qui sont produits par Maxime, en tout cas, sont vraiment de haute qualité sur ce sujet-là, puis c'est vraiment à faire circuler. Je pense que quand on se demande ce qu'on peut faire comme citoyen sur des enjeux de libre-échange, souvent on se sent déconnecté, on sent pas que c'est des enjeux sur lesquels on a un impact, mais je pense qu'il a cette capacité à nous redonner un pouvoir d'action à travers ses écrits sur des enjeux qui nous paraissent complètement, sur lesquels on semble pas avoir de prise, mais qui nous affectent directement.
Oui, d'ailleurs, dans son ouvrage, il mentionne que la COP21 est un accord sans feuille de route. Selon Attaque, on doit donner plus de place aux petits pays. En fait, c'est un peu le seul positif que Maxime Combes semble avoir trouvé dans ses rencontres qu'a eues des 196 chefs d'État. C'était que quelques petits pays, donc quelques îles qui pourraient être inondées, ont eu leur mot à dire. aux grands pays qui, normalement, quand on parle dans le temps de libre-échange ou à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, ce sont que les gros joueurs qui ont leur droit de parole. Mais quand il y a des, quand l'ONU est derrière ça, autrement dit, puisque c'était une convention cadre sur les changements climatiques organisée par l'ONU, les plus petits pays avaient leur mot à dire et ils n'étaient pas, comment dire, noyés là, dans la grande masse des grands commerçants de ce monde. Ils ont pu avoir leurs droits. Donc, on a vu l'association des pays plus du Sud, le G77, le V20, toutes sortes de groupes de pays plus démunis, si on peut dire, par rapport aux pays riches, pouvoir s'exprimer. C'est peut-être le seul côté positif qu'on retient de tout ça, mais il faut, comme Maxime nous le dit si bien dans certains écrits qu'on peut suivre sur Internet, que ces 25 ans de COP, ça a donné une augmentation de 60% des gaz à effet de serre. Donc, c'est pas là qu'on retrouve les solutions, à part d'avoir une belle photo de famille, puis d'avoir eu un succès diplomatique organisé par la France, quand on sait, les Français, ils savent recevoir. Je peux vous dire qu'il y en a eu des petits fours puis du champagne qui ont été servis. Et tout ça pour que chacun des pays amène seulement un plancher sans contrainte, en fait. Comme le Canada est un très bel exemple, c'est le plancher que le gouvernement Harper avait déterminé, qui a été discuté là-bas. Bien sûr qu'on a beau dire avec le gouvernement Trudeau qu'il y aura un plafond d'établi dans les 90 prochains jours, il reste que c'est de l'autorégulation, c'est de l'autodiscipline. Si le Canada joue bon joueur, c'est eux-mêmes qui vont le décider. Il n'y a pas de contrainte là suite à cet accord universel où les autres pays, comme même on retrouvait dans le protocole de Kyoto, où on devait, sous certaines sanctions peut-être même, respecter ce qu'on avait dit. C'est d'autres pays qui nous le disaient, alors que là, de Paris, on revient en disant, ben, c'est chacun pour soi. Si on veut changer sa propre contribution nationale, eh bien, on peut la faire. Sinon, eh bien, on s'en tient à ce qui a été présenté aux autres pays. Mais s'il n'y a rien qui change, et ça, Maxime Combes nous le dit très bien, c'est vers 3 degrés d'augmentation qu'on se dirige, et non pas le 1,5 qui était souhaité et rêvé par tous.
En fait, deux choses positives qui me semblent en tout cas apparaître suite à cette conférence. La première, vous l'avez mentionné, c'est effectivement de rendre visible des pays qui vivent à plein régime l'injustice climatique planétaire, on va dire. Donc, l'idée que les gros pollueurs sont ceux qui subissent le moins pour l'instant les effets des changements, des bouleversements climatiques, alors que les petites îles ou les petits pays, les petits États qui, eux, polluent moins, sont les plus grandes victimes. Et la deuxième chose, c'est la mise en lumière d'un peu, vous avez mentionné tout à l'heure le processus Alternatiba. On peut penser aussi aux quartiers, aux municipalités, aux régions qui s'engagent dans des initiatives de transition, que ce soit au Québec, en Europe, donc vers un monde sans pétrole et qui valorise les transports collectifs, l'aménagement des pistes cyclables, l'agriculture urbaine. Alors c'était aussi une belle tribune aussi pour mettre de l'avant toutes ces réalisations, puis notre prise comme citoyen dans des espaces locaux, d'investir les espaces de démocratie sur le plan local pour créer, par exemple, du logement intergénérationnel. Donc, un ensemble de solutions qui changent notre façon de vivre et qui a un impact réellement sur notre consommation de ressources. D'ailleurs, petit clin d'œil, actualité favorable, le gouvernement Couillard annonce que maintenant, il n'est plus très sûr de vouloir poursuivre l'exploitation sur l'île d'Anticosti. J'imagine que ça a dû être aussi quelque chose qui apparaissait suite à la conférence.
Ouais, ben j'étais à la conférence de presse comme journaliste représentant de Grain de Sable, effectivement de CKRL, où monsieur le premier ministre du Québec Couillard a mentionné cette bourbe comme ça enfin en quittant. On était, je crois, à ce moment-là à l'Élysée ou à Matignon. je mélange les deux. ça ressemble tout à peu près, ces gros flafla-là. Mais essentiellement, il disait tout bêtement que le gaz naturel, c'est tout simplement une énergie de transition. Alors que le lendemain, on se retrouvait dans une soirée canadienne, petit four et champagne, invité par Gaz Métro, Sophie Bolduc ou Brochu, peu importe la présidente, on pouvait sentir la chose, mais le malaise. Mais effectivement, je l'ai entendu redire dans son bilan de session, de fin de session parlementaire, le premier ministre semble convaincu que l'exploitation des hydrocarbures, en tout cas sur l'île Anticosti, n'est pas dans ses plans, que peut-être le gaz naturel est une énergie de transition. Donc, c'est assez nouveau d'entendre d'un gouvernement qui a longtemps encourager le fracking, comme on dit très bien en France, le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Alors, dites-le d'un premier ministre qui était un vendeur de marché du carbone à Paris avec le gouverneur de la Californie. Ça fait bizarre de voir ce petit virage vers le vert, quoi.
Mm-hmm. Mais tous les petits reculs sont bons à prendre pour être plus solidaire et mobilisé que jamais.
Oui, bien, effectivement, en parlant de solidaire, Québec solidaire, il y avait Manon Massé qui suivait les activités du premier ministre là-bas et qui était plutôt, qu'à être au Bourget avec les 196 pieds, traînait plutôt aux alentours, justement, du bureau du siège social d'Attaque France avec les organismes de gauche, évidemment, mais qui sont convaincus, eux aussi, qu'il faut changer le système et non pas le climat, comme l'accord universel nous le montrait. Alors, c'était intéressant de rencontrer Noémie Klein, d'ailleurs, avec Manon Masse. Manon Masse, c'est qu'on dit, hein? Et non, c'est intéressant de voir aussi Geneviève Azam, que tu as peut-être lu, oui, de ses ouvrages. Il faut suivre ces gens-là comme étant des intellectuels qui ont compris que effectivement, il y a un mouvement de justice climatique pacifiste qui est en train de se former avec tous ces organismes qui étaient présents, qui s'étaient donné rendez-vous à Paris, mais pas pour aller au Bourget, influencer un accord qui, dans le fond, n'a même pas de sanctions, n'a même pas de conséquences contraignantes, et ça justifie donc de vouloir changer le système par des manifestations, par des actions. Est-ce que, en terminant, Baptiste Gaudry, est-ce qu'il y a des campagnes qui ressortiront de COVID-19? On entend le désinvestissement, on entend, encore une fois, est-ce que la taxe globale, la taxe de Robin des Bois, est toujours d'actualité, finalement?
L'été, beaucoup d'actualité, il y a quelques années, on en parle moins. Alors, est-ce qu'elle va revenir d'actualité? Je le souhaite réellement. On parle beaucoup au Québec, on a la chance, on a plusieurs intellectuels qui font la promotion de la décroissance. Alors je pense que ça c'est un thème aussi à suivre et puis en tout cas à vraiment connaître. Il y a de plus en plus d'engouement pour la décroissance, qui signifie pas un retour en arrière, mais bien une croissance qui est soutenable et qui est aussi réfléchie et qui mise sur d'autres valeurs que celles du système actuel. Donc je pense qu'il y a, oui, je suis convaincu qu'il va y avoir un engouement pour le retour de cette taxe qui permet de penser aussi la justice climatique à un niveau, oui, planétaire. Et c'est surtout ça, je pense, qui est important en ce moment.
Oui, parce que justement, Maxime Combes nous rappelait que, dans le fond, tout ce qui a été discuté à Paris dans cet accord universel, c'était des économies de bout de cheminée, en faisant référence,
exactement,
aux économies de bout de chandelle, alors, exactement, qu'on devrait parler d'extractivisme, d'extraction des ressources naturelles non renouvelables. Et d'ailleurs, dès qu'on sort une ressource du sol, il est évident que ça créera du carbone, qu'on assistera à la carbonisation de notre planète, et que ça serait beau d'avoir des plasteurs géants comme des accords universels de Paris pour réparer le mal qui a été fait en essayant de diminuer les gaz à effet de serre qui sont la conséquence d'avoir sorti des ressources. Alors, on doit changer le système financier aussi, comme vous le rappelez si bien, pour aller plus loin. Mais merci beaucoup, Baptiste Gaudry. Et on va parler aussi avec Roger Lanoux, qui a écrit aussi dans le dernier bulletin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres articles qu'on doit absolument lire en terminant, Baptiste?
Alors, puisque Roger va prendre le micro tantôt, je peux signaler au passage, c'est ça, les articles de Marie-Sophie Villeneuve, qui est une proche collaboratrice, qui parle de privatisation des semences. Vous savez que les semences appartenaient autrefois donc au patrimoine commun de l'humanité, à des familles de paysans parfois, et elles deviennent de plus en plus la propriété privée d'entreprises, avec énormément de conséquences en termes de perte de biodiversité, de dépossession de souveraineté alimentaire. On a un article également de Dominique Bernier, qui intervient souvent en ondes sur le grain de sable, qui nous parle du partenariat transpacifique, qui est un peu ces enjeux alimentaires traités par Marie-Sophie, mais dans le cas spécifique d'un traité de libre-échange avec l'exemple du Canada. Donc
c'est un beau sujet pour une émission complète avec Dominique, là, quand elle sera de retour dans nos studios. On invitera effectivement Anne-Sophie.
Exactement. Puis un dernier article, je laisse après, je cède après la parole, mais un article de Monique Jean-Marc, qui en fait aborde le marché d'échange des crédits d'émission de gaz à effet de serre Et ce qui est intéressant, ça rejoint la conversation qu'on avait, ce marché de gaz à effet de serre est vu comme quelque chose qui va nous permettre de réguler notre consommation. Et elle, elle l'aborde comme un moyen finalement de, non seulement de juste de patchage, on va dire temporaire, donc un moyen de ne pas changer le système, mais de bien procéder de manière par des réformes de régulation, mais qui vont pas nous mener très loin. Et elle le prend aussi sous l'angle d'un nouveau colonialisme, puisque en fait, grâce à ces marchés, des pays ou des entreprises peuvent s'accaparer ou acquérir des terres dans des pays qui consomment moins ou qui produisent moins de gaz à effet de serre pour pouvoir se dédouaner de leur pollution. Donc il y a vraiment des pays riches qui peuvent s'accaparer des terres dans d'autres régions du monde pour pouvoir continuer un mode de vie qui est complètement intenable.
Ça aussi, Baptiste, ça vaut une autre émission parce que moi, ça a vraiment été mon domaine de spécialisation. Quand j'étais à Paris, j'ai questionné le premier ministre Couillard, le gouverneur de la Californie sur ce sujet, même la première ministre d'Écosse qui était sur place et des gouverneurs du Mexique. Puisque dès que le Mexique va entrer dans la Western Climate Initiative, autrement dit le marché du carbone qui a été initié par le Québec et Californie, là on aura des problèmes justement, comme tu viens de mentionner, des pays du Nord qui veulent se faire pardonner d'acheter des crédits de carbone dans le Nord et penser se faire pardonner en plantant des arbres dans le Sud. À l'heure actuelle, ce n'est pas, et d'ailleurs c'est pour ça que l'OCDE dit que notre marché du carbone est le meilleur des pires, c'est que on ne permet pas encore l'accaparement des terres dans le Sud, parce qu'il n'y a pas de pays du Sud qui font partie de ce marché du carbone québécois. Mais et ça s'en vient, et là, il faut les surveiller, parce que c'est terrible les conséquences que ça a dans le Sud, et je te remercie d'avoir rappelé ça. Donc ça aussi, ça fera une émission, c'est sûr, Grain de sable, avec Monique Jamard. On en a déjà parlé, on a échangé avec Monique ce matin sur le sujet, et je pense que ça va être très, très intéressant, avec des exemples concrets des conséquences. Donc, merci Baptiste.
Merci.
Moi, j'aimerais
pour
l'invitation. Qu'on... Ben merci, j'aimerais qu'on aille finalement avec le président des Amis de la Terre France, que j'ai eu la chance de rencontrer là-bas, évidemment, puisque j'étais avec Florent Compin lors de certaines manifestations. Et après cet extrait qui nous est gracieusement loué par Reporter.net, le magazine d'Hervé Kampf et de toute son équipe, eh bien, on entend Hervé questionner l'opération Climate Justice for Peace, à laquelle j'ai contribué. Je vous en parlerai par la suite. C'est vraiment intéressant d'entendre ceci.
Vont pouvoir se géolocaliser, donc envoyer un message avec leur téléphone portable et pouvoir se retrouver et donc visualiser en ligne avec une carte qui va faire apparaître tous ces points qui vont apparaître en mesure et qui vont allumer ces lettres et faire apparaître ces mots avec une deuxième opération qui est une opération de communication, donc avec l'utilisation très forte des réseaux sociaux où chaque petit groupe va pouvoir lui-même participer et faire participer les gens qui vont passer autour de lui et qui se retrouvent dans ces messages-là et communiquer pour avoir le mot de la fin, pouvoir communiquer l'ensemble des mots de la fin, l'ensemble des mots de la fin de l'ensemble de toute une coalition climat qui est aussi diverse et large que possible et que l'ensemble de ces messages-là puissent être entendus à la fin de la COP au moment où c'est plus que ça n'est. Plus
ça sera visible où en fait ?
Ce sera visible en ligne directement sur le site internet Climate Justice for Peace. On est bien évidemment aussi en train de travailler avec des médias pour qu'il y ait une couverture médiatique très importante de ce sujet-là. Et aussi avec beaucoup d'organisations, c'est très très large. Ça va les mouvements sociaux, mouvements citoyens, mouvements environnementaux, associations de jeunes, etc., etc., etc.
Florent Compin sur Reporter le 9 décembre 2015.
Faire un sourire planétaire, faut pas nous prendre pour des cons. Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hey! Allez, la liberté d'expression, la libération de la raison. Faudrait penser à demain, casser la gueule à la fin. Allez, tout doit changer.
crayon. La pollution n'est plus une option. Bon, allez, un abri pour l'univers et des habits pendant l'hiver. Le coup de balai dans le système, on verra bien où ça nous mène. Allez, tout doit changer. Allez, tout doit changer. Allez, tout doit changer. Allez, tout doit changer. Que la terre est un bon coup aux enchères. Faut pas penser qu'une frontière c'est une raison de faire la guerre. Faut pas penser que la différence c'est l'ennemi des ressemblances. Et puis un jour y aura la révolution. Pour tous les cons c'est la prison. Allez, tout doit changer.
Eh ben oui, il faut rêver, il faut rêver, il faut rêver à ce que tout peut changer un jour. Nous avons Roger Lanoux avec nous, qui est aussi auteur dans le bulletin, le dernier bulletin d'Attaque Québec, disponible sur le site. Je vous le recommande vraiment. Et Roger nous fait une sorte de recension du livre de Naomi Klein, Tout peut changer. Est-ce vrai, Roger Lanoux? Est-ce que tout peut changer? Est-ce que notre modèle économique est en guerre avec la vie sur Terre?
En fait, c'est sa thèse principale, savoir que la vérité qui dérange, la vraie vérité qui dérange, c'est pas qu'il y a des gaz à effet de serre, c'est que les gaz à effet de serre sont là parce qu'il y a un modèle économique qui est basé sur la productivité à tout prix, le productivisme sans égard à l'environnement et aux personnes, puis en particulier, bien sûr, à l'émission de gaz à effet de serre. Alors, donc, ce que Naomi Klein élabore, c'est que nous avons un système économique qu'il faut changer, parce que si on change pas, de toute façon, d'ici quelques dizaines, possiblement un siècle et demi, ben la vie telle qu'on la connaît, là, pour les mammifères, on va être disparu. Alors, faut changer ou on disparaît. C'est ça l'alternative principale. Donc, elle évoque évidemment tous les discours rassurant et rassembleur que les élites des États et des multinationales nous racontent, mais démontrent très, très systématiquement comment c'est cousu de fil blanc, comment ça peut pas tenir et comment il faut se baser sur autre chose. Et donc, ce qu'elle recommande, c'est que fédérer les efforts de tous les mouvements sociaux pour faire advenir le changement qui est nécessaire.
Mais est-ce qu'on est en crise écologique ou existentielle, finalement?
Ben, c'est que ça remet en question le mode de vie principal de l'Occident, tout au moins, puis que les autres continents ou pays essaient d'imiter. Alors, on est en crise écologique. Fondamentalement, on s'en va vers une crise écologique année après année, décennie après décennie. Et la seule façon de l'arrêter, c'est de changer quelque chose de fondamental dans notre façon de vivre dans notre système économique. Et ça, évidemment, c'est très dérangeant. C'est pas rien que d'ajouter une technologie qui va résoudre tous les problèmes.
C'est pas un peu alarmiste, justement, de faire comme Naomi Klein dans son livre « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique » aux éditions Actes Sud, de dire que c'est changer ou disparaître, en fait.
Oui, c'est ça. Exactement comme ça qu'elle le dit. Il faut changer le système économique. À défaut de quoi, l'écologie ne sera plus capable de soutenir la vie des mammifères en général. Alors, elle ne va pas très, très profondément dans la partie scientifique. Elle prend pour acquis que les conclusions du GIEC, du groupe international sur les changements climatiques là, de l'ONU, ont raison là, de viser au maximum. maximum 2 degrés de réchauffement et probablement mieux 1 degré et demi. Et démontre, ce qu'elle s'applique à démontrer, c'est surtout comment le système économique, comment les décisions gouvernementales, les décisions des multinationales, basées sur maximisation du profit et en se concernant avec la création d'emplois qui s'ensuit, ben, ce système-là fait en sorte que on va finir par s'asphyxier. C'est pas s'asphyxier au sens de fumer, là, mais la qualité de l'air, l'environnement ne sera plus capable de soutenir la planète, la vie sur la Terre plutôt, telle qu'on le connaît.
Donc Naomi Klein, qui est cette journaliste canadienne vraiment connue à travers le monde, elle a attiré jusqu'à 3000 personnes une soirée à Paris où j'étais dans un des villages alternatifs en présence de tous les membres de la société civile, y compris les 25 membres de la société civile du Québec qui étaient là, invités par le gouvernement du Québec. On les salue. Donc on parle de l'auteur de No Logo, la tyrannie des marques, de la stratégie du choc, la montée du capitalisme du désastre, mais Naomi Klein, il y a quand même des points saillants dans cet opus de quasiment 600 pages. Quels sont vos points saillants, d'après vous?
Ben, la première, enfin, elle fait une liste de ce qui démontre comment ça marche pas, comment les technologies proposées, finalement, sont plus énergivores que ce qui est annoncé tout le temps, que les gouvernements mettent en place des objectifs qu'ils s'arrangent pour être capables de les détourner, qu'ils proposent des bourses de carbone, par exemple, ou ce qu'on sait, en tout cas, l'expérience européenne des certainement des 10-12 dernières années démontre que c'est de la bouillie pour les chats, là, ou une autre façon de le dire, c'est que c'est un beau grand système inventé par des tricheurs prenant pour acquis que tout le monde va être honnête.
Ben oui.
Alors donc, ça marche pas.
On achète des forêts avec des arbres qui poussent déjà de toute façon en disant ça nous compense notre pollution du Nord.
C'est ça, exactement. C'est un des multiples exemples.
Au Mozambique, en Indonésie, c'est décrié là-bas. Là.
Voilà. Et donc, ça, elle fait la liste de tous les efforts présumés systématiques pour s'attaquer à la question des changements climatiques, démontre que ça marche pas. Puis par ailleurs, fait aussi une analyse de toutes les victoires qu'il y a pu y avoir, insuffisantes bien sûr, mais des victoires quand même où il y a eu des éléments énergivores de bloqués, il y a eu l'exploitation d'extraction de minerais ou de mines de pétrole ou de gaz qui ont été bloqués par les populations dans les divers pays, dans les divers continents, c'est un peu partout. Alors, le fondement, croit-elle, à partir de ce qu'elle observe, c'est que dans la mesure où on réussit à changer, ça va se faire à partir de l'attachement que les personnes ont de leur environnement local, et donc que ce soit au niveau des villages, au niveau des villes, des rassemblements de villes, et c'est comme ça que ça va partir plutôt que par le strict leadership présumé des grandes puissances étatiques et des multinationales qui, elles, vont peut-être finir par se rallier, mais certainement pas de billets de cœur, mais ça va venir essentiellement à cause de l'importance de la pression qui peut être exercée par les divers mouvements sociaux à travers le monde.
Oui, et Mme Klein, lorsqu'elle fait ses discours, d'ailleurs, elle en a fait un autre le 12 décembre devant la Tour Eiffel, en plein Champ de Mars, accompagnée de Geneviève Azam et de tous les leaders des grands groupes écologistes qui avaient réussi à ramasser quand même 25 000 personnes pour cette manifestation qui était longtemps interdite, mais qui avait été compensée par d'autres actions le matin, comme on en parlait tout à l'heure avec le président des Amis de la Terre, qui avait tenté de faire une espèce de manifestation par géolocalisation en mentionnant Climate Justice Peace. Mais Naomi Klein nous parle beaucoup de Blocadia. En terminant, est-ce que vous avez entendu parler de ces mouvements? Et je pense qu'elle l'encourage effectivement de bloquer la machine à réchauffer la planète par des alternatives. Et elle donne souvent un exemple, le Québec, par tous les efforts qui ont été faits pour en arriver avec un moratoire sur les gaz de schiste, le fait qu'on a réussi à fermer la dernière usine nucléaire. Et donc, elle aime beaucoup le Québec, d'ailleurs. Je pense qu'elle va venir nous voir prochainement. Est-ce que vous avez des idées de blocadia qui pourraient être faites ici au Québec, à Montréal?
Bah, je ne sais pas si j'ai des idées précises. Là, c'est sûr que moi, j'ai plus lu son livre et j'ai apprécié la logique qu'il y avait en arrière. Et Blocadia, effectivement, elle montre comment ça a été parmi les succès qu'il y a en Amérique du Nord, ça a été souvent avec le soutien des peuples autochtones,
oui,
qui ont bien sûr un attachement à leur terre, mais aussi qui ont une position juridique qui peut faciliter de retarder ou de bloquer certains projets. Bon, alors donc des exemples au Québec de décroissance. Là encore, c'est un discours qui est pas populaire, hein, quand on parle de décroissance. Décroissance veut dire oui, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que l'usine ou le restaurant ou le je sais pas quoi dans lequel je travaille va fermer? Ben, il va y avoir toutes sortes d'ajustements, bien sûr, mais cette décroissance-là, là, qui s'ensuit du Blocadia, ben, elle le perçoit comme nécessaire, c'est
oui.
Sûr. Alors, donc, des exemples au Québec actuellement, ben, il y a forcément l'exemple des oléoducs provenant de l'Ouest canadien, où le but principal, c'est de trouver un marché pour les sables bitumineux via le port de St. John's, de Irving, vers l'Atlantique et tous les pays qui seraient accessibles par l'Atlantique. Et ça passerait un tuyau à travers le Québec. Bon, on sait que il y a eu des blocages analogues pour bloquer les sables bitumineux vers le sud aux États-Unis, puis vers l'ouest, vers le Pacifique, à travers la colonie britannique.
Donc, il reste l'Est à bloquer, là. C'est un bel exemple de blocage.
En ce qui concerne le cas des sables bitumineux, qui était un des éléments importants de la politique du gouvernement fédéral jusqu'à tout récemment, c'est sûr que c'est un élément important. Puis, quand on le regarde au niveau énergétique et versus changement climatique, il est clair que 70 à 80 % et probablement plus des combustibles fossiles doivent rester dans le sol.
Tout à fait.
Nécessairement, il va y avoir un réchauffement climatique plus important que ce qu'on est capable de contrôler.
Si on prenait le cas des sables bitumineux, il y a déjà, j'ai demandé à des Autochtones du coin qu'on a rencontrés dans les fameuses réceptions des ambassades. Moi, je m'en servais pour faire des contacts. Puis un Autochtone qui s'est battu, là, qui est touché par la qualité de l'eau, la mauvaise qualité de l'eau maintenant, au lac Arthabasca, aux environs du sable bitumineux, il dit il y a déjà plus que 80 % de sables bitumineux qui ont été extraits. Donc, si on se fie à cette norme, il faudrait non seulement empêcher un oléoduc, mais à la base de l'extractivisme, de dire non, c'est fini, on a exploité plus que la norme qu'on doit avoir pour éviter d'avoir un impact sur le climat. Donc déjà, les sables bitumineux ont dépassé le 80%, donc il faudrait que ça reste là. Ça réglerait bien les problèmes après. Et si le gouvernement fédéral en arrive à ce genre de décision, et en plus, il y a des tendances qui disent que peut-être que Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères, serait pour lutter contre les paradis fiscaux, ça aussi, ça pourrait aider. Et on pourrait suggérer à ce moment-là, comme les Amis de la Terre et Attac France, faire un Blocadia auprès des banques qui sont climaticides ou qui financent fameux et qui offrent la possibilité de voler vers des paradis fiscaux l'argent des contribuables qui est volé par milliards à chaque année. Donc, on pourrait faire comme on a fait à Montreuil, peut-être au Forum mondial de Montréal, qui a lieu au mois d'août. Il y a des rumeurs qui circulent que peut-être que des gens d'Attaque ou des Amis de la Terre pourraient aller devenir des faucheurs de chaises de banque. On n'aimera pas, mais la Banque Royale, par exemple, qui est la Scotia Bank, et se retrouver à Montréal, peut-être pas avec 196 chaises comme on a fait à Montreuil au Village des Alternatives, mais quelques chaises qui représenteraient le nombre de personnes qui siègent quand on vote des lois pour favoriser le paradis fiscaux.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est certainement des choses que certains groupes vont
envisager
pour le Forum social mondial de Montréal, qui a lieu à Montréal au mois d'août prochain.
Donc,
je participe un peu à ce qu'il peut y avoir comme programmation.
Ben oui, donc c'est pour ça que j'en glisse un mot. Là, il y a des gens qui sont crinqués comme moi puis d'autres. Là, parlez-en à Claude Vaillancourt aussi. On va essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de rallier les gens puis de faire de la Blocadia adaptée au Québec, adaptée à nos ressources naturelles, adaptées à nos banques climaticides pour une justice climatique en paix, évidemment, sans armes, sans violence, comme HK et les saltimbanques nous le disent si bien. Merci beaucoup, Roger Lanneau. On doit vous quitter. On a déjà étiré la sauce un peu trop, mais c'est tellement intéressant. De toute façon, si on veut plus de détails sur les faits saillants de ce livre de Mme Klein, Tout peut changer, eh bien, on va sur le site d'Attaque France. Le bulletin, le dernier bulletin, a vraiment des bons articles qui sont en plein dans l'actualité post-COP21. Merci.
Excellent. Excellent. OK, merci beaucoup, Jean.
CKRL 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % au Café Castello, 2909 Première Avenue. CaféPremièreAvenue.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires.
Et si le tiers-monde s'autofinançait? Pays sous-développés ou pays en voie de développement ou pays moins avancés? 65 ans d'aide publique au développement, est-ce un échec monumental, Jacques Bégélina?
Évidemment que c'est un échec monumental. Il y a quelques pays là, qui s'en sortent un petit peu mieux, évidemment, comme la Chine, qui n'a jamais entré dans l'aide internationale. Alors que les pays qui ont reçu le plus d'aide internationale, comme en Afrique par exemple, en Amérique latine, cette aide-là a créé une aidocratie, hein, une nouvelle classe politique.
Aidocratie.
Oui, un nouveau mot que j'ai inventé.
Ben oui, c'est très bon.
Alors, qui vit de l'aide internationale. Donc, qui n'a pas besoin de base sociale, n'a pas besoin de pour se maintenir au pouvoir. Alors, donc, c'est ça qui a été le résultat. Donc, il faut chercher une autre voie de développement. Cette autre voie de développement, premièrement, il faut savoir de quoi l'on parle. L'autofinancement, pourquoi? Pour le développement. C'est quoi le développement? Alors, voilà. Le développement, c'est pas de rejoindre les pays les plus avancés, la consommation de masse. Le développement, c'est d'être capable de subvenir à soi-même. Et qu'est-ce qui lance le développement? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi le développement? Qu'est-ce qui lance le développement?
Je pense, quand on a lu vos écrits, M. Gélina, on pense que c'est certainement pas le libre-échange.
Non, non, c'est le contraire. Ce qui lance le développement, ce sont les outils, c'est-à-dire la technologie. Quand les hommes ont inventé, par exemple, la pelle, la charrue, pour cultiver la terre, quand ils ont découvert le secret de la germination, qu'ils ont domestiqué les animaux, ce qui sont de fait des outils pour produire plus. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui a lancé le développement, c'est-à-dire de produire plus de biens pour satisfaire nos besoins. Nos besoins de fait de développement qui sont infinis au point de vue matériel d'abord, il faut manger, il faut s'abriter. Au point de vue intellectuel, développer notre intelligence, on n'a pas ça pour rien. Le point de vue spirituel, donc les besoins sont très grands. Alors, le problème, c'est de produire pour plus que l'on consomme pour pouvoir fabriquer des outils. Les êtres humains, étant donné que nous sommes dotés d'intelligence et de mains, nous avons des mains, alors on peut toujours produire plus que ce que l'on mange. Mao Tse-tung résumait ça une chose très simple, on n'a seulement qu'une bouche et 2 mains. Donc on peut toujours produire plus. Alors le problème, c'est de pouvoir l'accumuler, ce qu'on produit plus. C'est ça qu'on appelle l'épargne. Hein? Quand on peut mettre de côté ce qu'on ne consomme pas pour pouvoir produire des outils, pour avoir du temps pour fabriquer des outils. Hein, quand on n'a pas besoin de partir à la chasse, à la pêche tous les matins, tout le monde, toute la communauté. Alors, donc, il y en a qui peuvent rester à la maison pour fabriquer des outils. C'est ça l'épargne. Donc, c'est ça qui commence le développement. Le problème du sous-développement, c'est quoi? C'est que les pays sous-développés se sont fait voler leur surplus.
Hein, l'épargne, et leurs ressources.
Leurs ressources, c'est-à-dire le surplus de ce qu'ils produisaient. Donc, ce qu'on produit en plus et qu'on ne consomme pas, c'est l'épargne. Mais les pays sous-développés se sont fait voler leur épargne, en plus de leurs ressources, évidemment, parce que les pays qui, par exemple en Afrique, se sont fait voler trois fois. Premièrement, par l'esclavage, hein, ils se sont fait voler leurs meilleures ressources de production. C'était les hommes, les femmes les plus forts, les plus fortes qui étaient apportées. Ensuite, la colonisation. Là, ils se sont fait voler le fruit de leur travail, leurs ressources. Et aujourd'hui, avec le commerce. Donc, ils arrivent toujours perdants dans le commerce. Donc, ils se font voler leur surplus. C'est ça qui est sous-développement. Comment faire pour garder notre nos surplus, notre épargne?
Comment répondre donc à la question, et si le tiers-monde s'autofinançait, comment peut-il s'autofinancer, le tiers-monde?
En épargnant, en gardant son épargne, donc. Non pas par l'aide au développement, parce que l'aide au développement produit une classe aristocratique, l'aidocratie, donc on l'a vu partout en Afrique, en Amérique.
Et la corruption s'en mêle un petit peu aussi.
La corruption, c'est-à-dire qu'évidemment, ils en mettent plein leur poche. Parce qu'ils sont de connivence avec ceux qui les dominent, avec ceux qui fournissent l'aide. Donc, ils mettent une partie dans leur poche, une petite partie pour faire quelques infrastructures. Alors, le problème, c'est de commencer dans des communautés locales à produire soi-même, à fabriquer des outils de production, comme par exemple, au lieu que les femmes soient sur le pilon toute la journée pour moudre le grain, d'installer un moulin, donc d'installer une école pour que les gens soient plus instruits. Donc, c'est ça le secret du développement.
Et comment sortir du sous-développement comme ça? C'est en finançant encore des écoles?
En s'autofinançant, c'est-à-dire les deux. En même temps que l'on va installer dans la communauté plus d'outils de production, par exemple... Au lieu de que la charrue soit tirée par les femmes, hein, qu'elle soit tirée par des bœufs ou par des chevaux, et les tracteurs viennent plus tard, donc au fur et à mesure que l'on accumule, alors on peut aussi installer des écoles. Donc, en installant des écoles, on a des gens plus préparés pour maîtriser sa propre technologie. Alors, le développement se définit comme ça. C'est l'accumulation progressive d'un surplus et donc d'un capital. Le capital, ça veut dire des outils, des machines, des usines. Donc, l'accumulation progressive d'un capital que l'on met au service de la collectivité. Pour répondre aux besoins de la collectivité, note au bas de page, tel qu'exprimé par la communauté. Alors, vous allez me dire que ça ressemble au capitalisme, l'accumulation du capital. Évidemment, mais le problème dans le capitalisme, c'est le même principe. Seulement, le capital est contrôlé, accumulé par une petite poignée. Alors que dans le développement, qui doit se faire sous un mode de solidarité, de coopération, donc le capital, le surplus, est contrôlé, administré, mis au profit de la collectivité. Voilà.
Ah, bien, écoute, donc, c'est intéressant. On peut retrouver donc des détails sur ce sujet qui préoccupe vraiment tous les altermondialistes dans votre ouvrage « Et si le tiers-monde s'autofinançait » aux éditions Éco-Société.
Exactement. Donc, 60 ans d'aide au développement, ça suffit. Parce que ça produit seulement une classe sociale qui travaille pour son propre profit, non pas pour le profit du peuple. Et il faut recommencer sur une nouvelle base, une nouvelle idée de l'autofinancement, l'autodéveloppement.
Merci Jacques Gélina. Oui, merci Jacques Bégélina. Il y a d'autres capsules qu'on vous fera entendre sur d'autres ouvrages que Jacques Bégélina a écrits, mais Étienne Blondeau.
Mm-hmm. Et si le tiers-monde s'autofinançait?
C'est la seule solution. Non seulement il peut s'autofinancer, mais il le doit s'il veut atteindre le développement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Gélinas. C'est pour ça que lorsqu'on réfléchit à des solutions pour l'Afrique, bon, ça va peut-être être une réponse décevante, mais il n'y a pas de réponse qui peut venir de nous. On peut pas donner la réponse à leur place. Il faut qu'ils déterminent eux-mêmes les projets qui amèneraient leurs économies dans la direction qu'ils souhaitent. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'écoute, beaucoup d'ouverture d'esprit. On ne doit pas arriver comme, disons, des ONG qui débarquent là et apprennent comment quelqu'un doit gérer sa terre alors qu'ils le font depuis des millénaires tout seul. Je crois qu'il faut plutôt être à l'écoute de leurs besoins. Ce que vous réalisez, c'est que l'Afrique peut pas prendre ses propres décisions parce qu'il y a beaucoup de verrous, de blocages à leur liberté d'action. Ça s'appelle des entraves à la souveraineté, ça. Ils n'ont pas la souveraineté politique, économique, alimentaire, en ressources dont ils auraient besoin. Je pense que la meilleure des choses, ce serait de chercher à leur donner la liberté dont ils ont besoin. Par exemple, ça me rappelle un texte que j'ai déjà lu. Le piratage des droits de propriété intellectuelle, une réelle nécessité pour les pays en développement. Ça a été écrit par Susanna Gentil, l'Université de Montréal. Où est-ce ce texte-là fait qu'on se rend compte que ces pays-là ont besoin des technologies, mais ces technologies-là sont protégées, hein. Ça sert de rente à des compagnies qui empêchent les gens d'utiliser leurs procédés. Mais pourtant, les pays qui doivent se développer, ils ont besoin des procédés technologiques pour avoir des produits de plus grande qualité, à moindre coût, mais on les en empêche. Et c'est pareil avec les traités de libre-échange, en tout cas, supposément de libre-échange. Jacques Bégélinas, il en a parlé souvent ici ou dans tous ses textes. Ça sert pas à échanger plus de biens, par exemple avec les pays d'Afrique ou les autres pays sous-développés. Ça sert encore et toujours à protéger les brevets, à protéger les droits de propriété des compagnies occidentales. Ça sert aussi à tout brader, à mettre en vente absolument tout ce qu'il y a dans ces pays-là, que ce soit les services publics, leurs ressources. Vraiment, il faut s'assurer que les pays soient pas soumis à des espèces de décisions qui avantagent des pays plus riches, plus puissants, ou des compagnies qui sont elles seules plus puissantes que bien de ces pays-là. Moi, je pense que l'exemple dont on commence à entendre parler plus souvent, c'est dans le cas du Congo, c'est le coltan. Le coltan qui est une ressource minière très prisée, très importante, parce qu'elle va dans tous les cellulaires. Elle est nécessaire.
Oui, c'est sûr. Ça.
Alors, n'importe qui a un cellulaire dans sa poche en ce moment, ou d'autres appareils de haute technologie, doit se rendre compte que c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les diamants du sang. Hein. C'est une expression qu'on a entendue souvent. Le Congo connaît beaucoup de guerres. Depuis les dernières années, on a certainement atteint 6 millions de morts pour ou des chefs de guerre ou des groupes de communautés ou d'ethnies se combattent et se disputent. Cette ressource-là qui permet la fabrication de nos cellulaires qu'on aime beaucoup, mais c'est la guerre qui joue autour de cette ressource-là. Et les compagnies étrangères semblent naviguer dans le chaos qu'il y a sur les lieux, comme un poisson dans l'eau. Elles semblent très bien s'accommoder d'un état de guerre sur place, en autant qu'ils ont les cailloux dont ils ont besoin pour extraire la ressource. C'est vraiment inquiétant que nos compagnies d'ici puissent faire des affaires d'or, alors qu'on parle de crimes extrêmement graves sur place. C'est pour ça que on a parlé un peu de plusieurs solutions écologiques plutôt dans l'émission, tu sais, oui. le désinvestissement des énergies fossiles, par exemple. Faut poser la question des compagnies minières, très souvent canadiennes, faut le rappeler.
Oui, parce que le Canada est un paradis fiscal pour les compagnies minières internationales. Souvent, exactement. On pense que ce sont des compagnies canadiennes, mais en fait, qu'elles appartiennent à des étrangers, mais bénéficiant de leur siège social à Toronto, leur fait sauver beaucoup d'impôts et même donne accès à des programmes d'aide à l'exportation et à l'exploitation.
Exactement. C'est pour ça que le Canada est un lieu où doit se jouer ce combat-là, contre les compagnies qui s'accommodent ou peut-être même fomentent des conflits sanglants pour qu'il n'y ait aucun... comment dire, un État assez soudé, assez sûr de lui-même pour dire non, il faut, si vous voulez la ressource, il faut payer le prix, le vrai prix. Parce que si les cellulaires ou d'autres technologies peuvent souvent être bon marché, c'est peut-être à cause de la violence qui est à l'origine. Hein. En gros, moi, je pense, vu qu'il reste plus beaucoup de temps, je crois que je vais proposer surtout des idées de lecture.
Oui, allez-y.
Moi, la personne que je voulais avoir aujourd'hui, ça a été impossible finalement, là, mais je voulais beaucoup interviewer Patrick Mbeko, qui est d'origine congolaise, mais qui habite le Canada. C'est un expert en géopolitique, l'auteur de plusieurs livres, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, Le Canada et le pouvoir Tutsi, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Alors lui, il arrive à bien situer le rôle du Canada dans tous les conflits qu'il y a au centre de l'Afrique. Je pense que ce n'est que partie remise. Peut-être qu'on essaiera d'avoir une entrevue avec lui.
C'est à quelle édition? Si on veut trouver ses livres?
Je mettrai des liens sur le blog dans les prochains jours, mais c'est vraiment un sujet intéressant.
Oui, merci d'ailleurs, parce que je voulais faire une petite pause musicale d'un groupe marquant, qui était le groupe fétiche de toutes les manifestations qu'il y a eu dans les villages alternatifs qui se sont créés aux alentours du Bourget à Paris. Et vraiment, il faut leur donner la possibilité de se faire connaître ici, puisque c'est
sans
un
haine,
groupe
sans armes,
qui dit
sans
des belles
violence,
choses.
De résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix.
Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.
Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais.
Voilà.
Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus.
Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux.
Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans.
Puis en dedans, il y a du gravy.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble.
My God, qu'on est rendu loin!
Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui...
À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle, le cadeau de Tire le Coyote, quand les hommes vivront d'amour.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.
Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv.
Dimanche 20 décembre de 13 à 17 h, trois gorgées de brandy promettent d'inonder vos oreilles avec une décoction musicale digne des meilleurs alambics et de vous faire goûter des petits miracles musicaux cuisinés avec savoir-faire par les meilleurs faiseurs de soupe dans toutes les langues et pour toutes les bouches. Claude Brindamour, Denise Leclerc et Sophie Pomerleau vont décapsuler votre esprit avec des libations douteuses et des paroles sans lendemain. Gab Paquette et Steve Normandin participeront à leur manière à ces agapes fraternelles. Dites-nous que vous serez là. Pour le bien-être de votre âme, des dizaines de bons et de mauvais disques seront diffusés. Trois gorgées de brandy, dimanche 20 décembre à 13h, à CKRL.
Brr, il fait trop froid au Québec.
C'est pas qu'il fait froid, c'est que t'es mal habillé.
Mais j'ai quatre chandails sur le dos.
Peut-être, mais t'as aucun chandail en laine d'alpaga.
En laine de quoi?
D'alpaga, tu sais, c'est un chameau des Andes qui donne une laine très douce, plus chaude et plus résistante que celle des moutons.
Waouh, et où je peux trouver ça à Québec?
Sur la rue Saint-James, au 669, la boutique.